des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous. Clotilde Seille en studio au studio de Canal M qui produit ce balado des livres plein les oreilles. Un épisode par semaine, c'est facile, tous consacrés aux livres qui s'écoutent. Et puis cette semaine, allez savoir pourquoi, peut-être parce que le mois d'avril n'en finit plus de finir, mais j'avais des envies de voyage. Et je dois dire que les nouveautés dans le domaine du livre audio que j'ai trouvé à droite et à gauche, eh bien, m'y encouragent encore plus, non seulement à voyager, mais à vous proposer aussi des livres qui vont faire quitter votre petit coin de pays. En première partie, on va donc partir pour le Japon. Tiens, et puis l'Islande. On va aussi aller un petit peu dans l'univers de Jules Verne, voilà, qui nous a fait voyager quand on était jeune. Et puis en seconde partie, on va aller en Italie, on va de nouveau aller en Islande et au Japon, et on dirait que c'est comme pour boucler la boucle. Et puis tiens, on ira sur la Lune, un coup parti, pourquoi pas nous aussi d'abord. Vous aimez l'univers de Jules Verne, eh bien sachez que la plupart des livres de Jules Verne se retrouvent en audio. Il y en a qui sont sortis et qui ont été enregistrés récemment par le studio Campus. Ils ont demandé à des gros noms de venir lire du Jules Verne. Il y a notamment Guy Nadon qui se prête au jeu, ainsi que Paul Doucet. Et il y en a d'autres, je pense, à venir, et c'est vraiment tout récent. C'est sorti en décembre 2025, voyez-vous, il y a seulement quelques mois. Et dans les deux titres qui sont déjà disponibles, vous pourriez réentendre la voix de Guy Nadon, lisant Les enfants du capitaine Grant. On va d'ailleurs en écouter un extrait. Et puis celle de Paul Doucet, lisant pour sa part un extrait de L'île mystérieuse. Vous savez, cette histoire de ces cinq nordistes qui sont faits prisonniers par les troupes séparatistes. On est pendant la guerre de sécession. Alors, Monsieur Smith, son chien Top, le reporter Spiley, le noir Nab et le marin Pencroft ainsi que le jeune Harbert s'en vont, se sauvent des séparatistes et ils s'enfuient en ballon. Ils vont être pris dans une tempête, ils vont s'échouer sur une île déserte, une île mystérieuse en plein cœur de l'océan Pacifique. On écoute un extrait de ces deux œuvres de Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant et L'île mystérieuse.
Plus tard, ce furent de vastes champs de broussailles et de jeunes gommiers, puis les groupes s'écartèrent, les arbustes isolés se firent arbres et présentèrent le premier spécimen des forêts de l'Australie. Cependant, aux approches de la frontière victorienne, l'aspect du pays se modifiait sensiblement. Les voyageurs sentaient qu'ils foulaient du pied une terre nouvelle. Leur imperturbable direction, c'était toujours la ligne droite sans qu'aucun obstacle, lac ou montagne, les obligeât à la changer en ligne courbe ou brisée. Ils mettaient invariablement en pratique le premier théorème de la géométrie et suivaient, sans se détourner, le plus court chemin d'un point à un autre. De fatigue et de difficulté, ils ne s'en doutaient pas. Leur marche se conformait à la lente allure des bœufs, et si ces tranquilles animaux n'allaient pas vite, du moins allaient-ils sans jamais s'arrêter. Ce fut ainsi qu'après une traite de 60 milles fournie en 2 jours, la caravane atteignit le 23. Au soir, la paroisse d'Asplet, première ville de la province de Victoria, située sur le 141e degré de longitude dans le district de Wimmera. Le chariot fut remisé par les soins d'Ayrton à Crown's Inn, une auberge qui, faute de mieux, s'appelait l'Hôtel de la Couronne. Le souper, uniquement composé de moutons accommodés sous toutes les formes, fumait sur la table. On mangea beaucoup, mais l'on causa plus encore. Chacun désireux de s'instruire sur les singularités du continent australien.
À moins qu'on eût besoin de ses services, soit pour charrier du bois, soit pour grimper à la cime de quelque arbre, Jup passait la plus grande partie de son temps à la cuisine et cherchait à imiter Nab en tout ce qu'il lui voyait faire. Le maître montrait d'ailleurs une patience et même un zèle extrême à instruire son élève, et l'élève déployait une intelligence remarquable à profiter des leçons que lui donnait son maître. Qu'on juge donc de la satisfaction que procura un jour maître Jup aux convives de Granite House, quand, la serviette sur le bras, il vint, sans qu'ils en eussent été prévenus, les servir à table. Adroit, attentif, il s'acquitta de son service avec une adresse parfaite, changeant les assiettes, apportant les plats, versant à boire, le tout avec un sérieux qui amusa au dernier point les colons et dont s'enthousiasma Pencroff. Jup, du potage. Jup, un peu d'agouti. Jup, une assiette. Jup, brave Jup, honnête Jup. On n'entendait que cela, et Jup, sans se déconcerter jamais, répondait à tout, veillait à tout, et il hocha sa tête intelligente quand Pencroff, refaisant sa plaisanterie du premier jour, lui dit « Décidément, Jup, il faudra vous doubler vos gages. » Inutile de dire que Laurent était alors absolument acclimaté à Granite House et qu'il accompagnait souvent ses maîtres dans la forêt, sans jamais manifester aucune envie de s'enfuir. Il fallait le voir, alors, marcher de la façon la plus amusante, avec une canne que Pencroff lui avait faite et qu'il portait sur son épaule comme un fusil. Si l'on avait besoin de cueillir quelques fruits à la cime d'un arbre, qu'il était vite en haut. Si la roue du chariot venait à s'embourber, avec quelle vigueur Jup, d'un seul coup d'épaule, la remettait en bon chemin.
Plongez donc dans cet univers de Jules Verne dont on ne se lasse pas. J'ai aussi envie de vous emmener au Japon parce que je sais qu'en ce moment, les cerisiers sont en fleurs et c'est quelque chose d'assez exceptionnel, ça. Et j'ai envie de vous faire partager une plongée intime dans l'âme japonaise. Et c'est écrit par Marie Kondo. C'est une Kondo, K-O-N-D-O. C'est une véritable lettre d'amour au Japon. Elle partage pour la première fois ses réflexions sur la façon dont la sensibilité japonaise a façonné sa philosophie du rangement qui a conquis le monde. On parle au comment le feng shui, le feng shui, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah bah aussi le kondo, oui. Oui, moi je pensais à l'agencement des choses. Le feng shui, c'est ça. Alors c'est tout un voyage. Par exemple, on nous dit ici que c'est comme un voyage sensoriel à travers les saisons japonaises. La cérémonie du thé, les arbres en fleurs, etc. On nous dit aussi que c'est tout un univers de perspectives précieuses auxquelles Marie Kondo nous invite, nous convie. Lesquelles, par exemple, comment trouver l'harmonie dans un monde hyperconnecté? Comment reconnaître l'importance de prendre soin des objets qui nous entourent, etc., etc. L'acceptation de l'imperfection et de l'impermanence. C'est pas seulement un livre à lire ou à écouter, c'est une expérience à vivre, nous dit-on. En voici un extrait de « Lettres du Japon, principes et pratiques d'hier et d'aujourd'hui pour trouver l'harmonie » de Marie Kondo, lue par Florine Orphelin.
Au fond, ce qui me plaît le plus dans les fleurs de cerisier, c'est peut-être qu'elles invitent à la réflexion. Pendant un moment privilégié, on peut vivre intensément l'essence d'une saison au travers d'une unique entité. J'étais à New York, très loin de chez moi. Au beau milieu d'une journée truffée d'événements promotionnels, mon mari, Takumi, et moi traversions la ville à vive allure en taxi pour nous rendre à une énième interview. Fatiguée, je regardais distraitement par la vitre. Les bâtiments de cette ville étrangère se confondaient à mes yeux en une masse informe et terne. Une vibrante explosion de rose pâle retint soudain mon attention. J'aurais reconnu cette nuance de rose n'importe où. « Sakura !» me suis-je exclamé. « Des cerisiers en fleurs !» Takumi leva les yeux. Sa réaction fut non moins enthousiaste. « Oh, mais oui, Sakura, c'est magnifique !» « Comme c'est beau !» ai-je dit dans un soupir, émerveillé par les rangées de cerisiers en fleurs qui bordaient les trottoirs sur plusieurs centaines de mètres. C'était comme croiser au hasard d'une rue un ami trop longtemps perdu de vue. Une joie immense me gonfla le cœur, tempérée toutefois par un accès soudain de mal du pays. Les fleurs m'avaient instantanément ramené aux journées de printemps de mon enfance au Japon. Les pique-niques en famille sous une voûte rose pâle, le trajet à pied jusqu'à l'école par une belle matinée d'avril, entourée d'une pluie de pétales dansante au vent. Printemps. Chaque printemps, les météorologues japonais suivent la progression du Sakura Zensen, le front de floraison des cerisiers. Les premières fleurs commencent à éclore à Okinawa, un archipel de plus de 160 îles dans le sud-ouest du pays, surtout connu pour ses plages de sable blanc, avant que le front ne remonte progressivement vers le nord pour atteindre le reste du pays. L'Agence météorologique du Japon se sert de 58 arbres de référence répartis dans tout le pays pour prédire à quel moment les fleurs vont éclore dans chaque région. Dans les zones rurales telles que Yoshino, dans la préfecture de Nara, les cerisiers en fleurs parent des flancs de montagnes entiers d'un spectaculaire manteau rose, tandis que dans les environnements urbains très densément peuplés, comme Shibuya, on peut tomber sur un arbre esselé, fleurissant dans un recoin inattendu. Mais les météorologues ne sont pas les seuls à tâcher de prédire le début de la floraison. Comme beaucoup de Japonais, quand je vois grossir les bourgeons des sakura, je m'impatiente.
Et que diriez-vous qu'on reste au Japon? C'est difficile de ne pas associer ce pays-là avec Amélie Nothomb. Vraiment très, très difficile. Elle qui a vécu un certain temps, elle dont elle dit que le Japon, c'est sa mythologie personnelle. Eh bien, elle nous offre avec la complicité d'Audible une série documentaire de 10 épisodes que vous pouvez entendre sur Audible ou sur d'autres plateformes. Où l'on découvre, elle nous fait explorer elle-même les mythes et les spiritualités japonaises, japonais aurais-je dû dire, et alors on va découvrir par l'intermédiaire de ses yeux tout ce qu'elle a pu réaliser elle de façon personnelle, mais tout ce qui se réalise aussi sur le plan spirituel au Japon. Elle dit que, bon, elle nous rappelle qu'elle a eu la chance de vivre sa petite enfance dans le Kansai. On va d'ailleurs l'entendre en parler directement. Il y a aussi, moi je tiens à vous le préciser, un univers sonore qui est en 3D, donc accompagné de musique traditionnelle et originale. Alors c'est intéressant quand elle va nous amener, entre autres, dans le pays du No, dont son père d'ailleurs était un spécialiste. Il faut l'entendre à un moment donné sur YouTube si vous avez l'occasion, dans je ne sais plus quelle émission, on lui demande parce qu'elle imite son père chantant du no, mais elle rit pas du tout, elle le fait tout à fait sérieusement et c'est confondant. On est scotché sur sa chaise, vraiment. Alors, je vous propose un extrait de Japon, les fleurs d'un monde flottant avec Amélie Nothomb. C'est lu par elle et par Julie Moulier, mais là, c'est elle qu'on va entendre.
Ma mythologie personnelle, c'est vraiment le Japon. Mes premiers souvenirs sont japonais. Je me suis très longtemps crue japonaise, mais c'était une conviction profonde. J'y croyais d'autant plus que non seulement je vivais au cœur du plus beau Japon, le Japon du Kansai, le Japon du Sud, tout près de Kyoto et Nara, qui sont les plus belles villes du monde. Je vivais dans un hiver d'estampes ou dans la nature, dans un jardin japonais, dans la montagne. Vraiment un Japon comme on l'imagine ici quand on le fantasme. J'étais enfant au Japon parce que mon père était diplomate. C'était l'un de ses premiers postes. C'était son tout premier poste asiatique. Et mon père avait eu un coup de foudre absolu pour ce pays, ce qui fait que son premier poste au Japon a quand même duré 5 ans. Poste anormalement long, surtout pour un jeune diplomate. Et le choc fondamental de ma vie a consisté à être arraché à cet univers parfait à l'âge de 5 ans.
«
À l'âge de 5 ans, j'ai été arrachée au Japon. Et je l'ai vécu vraiment comme un accident métaphysique, une blessure qu'il faudrait réparer un jour. J'ai fini mes études, j'avais 21 ans, et je suis retournée au Japon, mais à l'époque, c'était plus le Japon de mon enfance, c'était Tokyo. Donc là, j'ai découvert le Japon de la modernité. Ça a été un choc, parce qu'à la fois, je retrouvais vraiment le Japon de mon enfance, et je voyais que je m'étais quand même un petit peu trompée. Le Japon, ce n'était pas uniquement le temple et tout cet univers parfait. Bon, cet univers, je voyais qu'il existait. Il suffisait de se glisser entre les immeubles pour retrouver des bribes du Japon jadis, mais je devais m'adapter à ce nouveau Japon. Bon, j'ai eu un fiancé japonais, ça a été une expérience très intéressante. Après ça, je suis entrée dans l'une des plus grandes sociétés japonaises à Tokyo. Là, j'ai commencé à déchanter un peu. C'est là que j'ai commencé à comprendre que je n'étais pas aussi japonaise que je l'avais cru jusque-là. Plus exactement, j'étais une japonaise ratée. Donc probablement, espérons-le du moins, une Belge réussie. Mais il n'en est pas moins vrai que je me suis construite à partir de cette mythologie japonaise et que c'est pour moi la mythologie fondamentale.
Que c'est intéressant. Je vous rappelle que c'est un documentaire que vous pouvez entendre sur Audible alors que Amélie Nothomb nous parle de ce Japon qu'elle attend et qu'elle aime encore, qu'elle a tant aimé, qu'elle aime encore beaucoup et qu'elle aimera toute sa vie. Durant Japon, les fleurs d'un monde flottant. Tiens, on y reste au Japon avec les délices de Tokyo. Écoutez la voix des haricots. Tel est le secret de Tokyo, une vieille dame aux doigts mystérieusement déformés pour réussir le han, qui est une pâte de haricots rouges qui accompagne les dorayaki, qui sont des pâtisseries japonaises. Et il y a Santaro qui a accepté d'embaucher Toku dans son échoppe et qui voit sa clientèle doubler du jour au lendemain, conquise complètement par ses talents de pâtissière. Mais ça n'a pas été gagné d'avance, hein. Les premières fois qu'elle s'est pointée dans la pâtisserie, lui, il ne voulait pas l'engager. Il voyait une vieille dame avec les mains tout abîmées. Mais vous allez comprendre avec l'extrait pourquoi il a fini par l'engager.
Ce cerisier, qui l'a planté ?
Hein ?
Le visage tourné vers l'arbre, Tokue répéta : Ce cerisier, là. Sentaro leva les yeux vers les fleurs épanouies.
« Comment ça? Qui l'a planté ?»«
Il a bien fallu que quelqu'un le plante, non ?»«
Désolé, je n'ai pas grandi ici. »
Tokue semblait vouloir ajouter quelque chose, mais lorsqu'elle vit que Sentaro avait repris sa spatule, elle s'éloigna en lui lançant « Je reviendrai !»
C'était l'après-midi. Sentaro, assis sur une chaise dans la cuisine, déjeunait d'un plateau repas acheté à la supérette. Un chapeau blanc apparut de l'autre côté de la vitre.
Encore elle.
Comme elle lui souriait, Sentaro fut bien obligé de se lever.
Madame Yoshii, c'est ça ?
Sous le chapeau blanc, le visage tout ridé répondit.
Oui.
Désolé, mais pour le poste, c'est impossible. Tokue fit mine de reprendre la feuille de ses doigts déformés, puis elle retira doucement sa main.
Comme vous pouvez le constater, j'ai un petit problème au doigt. Alors, c'est d'accord pour moi. 200 yens, ça ira.
De quoi parlez-vous ?
Du salaire horaire.
Mais là n'est pas la question. Je ne peux pas vous embaucher, répéta Sentaro.
Comme la fois précédente, Tokue se contenta de le regarder fixement. Santaro recula d'un pas et tendit la main vers les dorayaki alignés en vitrine. Il allait lui en offrir un pour la faire partir. Et comme si elle avait deviné, elle lui demanda soudain « L'autre jour, j'ai mangé un dorayaki d'ici. La pâte à pancakes n'était pas mauvaise, mais la pâte de haricot, bof !»«
La pâte ?»«
Oui, c'était une pâte sans âme. »«
Sans âme ? C'est bizarre. »
Bien que sachant pertinemment que sa pâte ne risquait pas d'avoir une âme, Santaro afficha son étonnement.
« Comment dire ? Elle était insipide. »
« C'est difficile à faire, la pâte de haricot. Vous en avez déjà préparé, grand... Madame Yoshii ?»«
Je n'ai pas arrêté. Pendant 50 ans. »
Santaro faillit lâcher le dorayaki qu'il s'apprêtait à glisser dans un sachet en papier.
« 50 ans ?»«
Oui, un demi-siècle. Avec le han, tout est dans l'émotion, vous savez. »
Alors qu'il tendait le sachet à Tokue, la surprise cueillit Santaro comme une rafale de vent soudaine.
« C'est cela, oui, l'émotion. »
« Mais, pardon, je ne peux vraiment pas vous prendre. »«
Vraiment ?»«
Je suis désolée. »
« Écoutez, jeune homme. »«
Quoi ? » ?»«
Goûtez-moi ça pour voir. »
Elle sortit quelque chose de son sac, une boîte ronde et hermétique. À travers le plastique, Santaro distingua une masse sombre.
« Qu'est-ce que c'est ?»
La pâte de haricot de Tokue n'avait rien à voir avec celle du seau en plastique. Son parfum et son goût étaient riches, amples.
« 50 ans !»
Et il va finir par l'engager. Ça a donné un film aussi, ça, si des fois, à un moment donné, vous tombez dessus. Où est-ce qu'on va ? Oh, en Islande. J'ai envie d'aller en Islande. Et pourquoi pas ? Là, on va faire la connaissance de Miss Islande, qui est née sous la plume célèbre de Odur Ava Olafsdottir, autrement dit la fille d'Olaf. C'est ça que ça veut dire, Olaf de Tyr. Et elle s'appelle Ekla, du nom d'un volcan. On est en 1963, lorsqu'elle a 21 ans et qu'elle décide de quitter la ferme de ses parents et qu'elle s'en va pour Reykjavik, où la plupart des Islandais d'ailleurs habitent. Pour elle, il est temps d'accomplir son destin, elle sera écrivain. Mais avant, on va remonter le temps avec l'extrait qu'on va écouter. Et on va savoir d'abord pourquoi est-ce qu'elle porte ce nom-là et comment ça s'est passé. C'est le début du livre « Miss Islande » de Madame Olafsdottir.
Bienvenue, ma petite Ekla. Il avait choisi ton nom sans me consulter. Pas un nom de volcan et encore moins de la bouche de l'enfer, protestais-je depuis mon lit.
« Il faut bien qu'on y entre par quelque part !»
rétorqua le vétérinaire. Il me tournait le dos, penché sur la bassine, abusant de ma faiblesse. J'étais exsangue. Quand je l'ai épousée, j'ignorais que ton père était obsédé par les volcans, qu'il passait son temps plongé dans des récits d'éruptions, correspondait avec 3 géologues, faisait des rêves prémonitoires des déchaînements de la Terre et n'attendait qu'une chose. Voir un panache de fumée monter dans le ciel et sentir le sol trembler sous ses pieds. « Tu voudrais peut-être que la terre s'ouvre au bout de notre champ ?» demandai-je. « Comme une femme qui accouche ?» Je haïssais la lave. Un champ de lave vieux de 1000 ans cernait de toutes parts les terres de notre ferme. Il fallait le franchir pour aller cueillir des baies sur la lande, et on ne pouvait pas donner un coup de bêche dans le carré de pommes de terre sans buter sur un rocher. Arnildur, la femelle de l'aigle, dis-je de sous la couette dont ton père venait de me couvrir. C'est un prénom de combattante. Godskalk, il reste à peine 20 aigles en Islande alors qu'il y a plus de 200 volcans. Ajoutai-je dans une ultime tentative.
Je vais te préparer un café,
répondit-il à titre de compromis ou d'armistice. Sa décision était sans appel. Je me tournai finalement sur le côté et je fermai les yeux pour qu'on me laisse tranquille. 4 ans et demi après ta naissance, l'éclat entra en éruption au terme de 200 ans de sommeil. Urne avait 2 ans. Ton père eut enfin l'occasion d'entendre dans la province des Dalyres les grondements titanesques dont il rêvait, comme un écho de la guerre mondiale qui venait de s'achever. Il appela immédiatement sa sœur, dans les îles Westman, pour lui demander ce qu'elle voyait depuis la fenêtre de sa cuisine. Elle était en train de faire revenir des beignets. Elle lui répondit que le nuage stagnait au-dessus de l'archipel, que le soleil était rouge et qu'il pleuvait des cendres. La main sur le combiné, ton père me répétait ses propos mot pour mot.
« Elle dit que le soleil est rouge et qu'il pleut des cendres, qu'il fait presque aussi noir qu'en pleine nuit et qu'elle a dû allumer la lumière. »
Il lui demanda si le spectacle était aussi grandiose que terrifiant et si le sol de la maison tremblait.
Elle dit que le spectacle est aussi grandiose que terrifiant, que toutes les gouttières sont pleines de cendres et que son mécanicien de mari est monté sur l'échelle pour les nettoyer.
Il passait son temps l'oreille collée au poste de radio et me résumait les informations essentielles.
La bouche d'éruption, le cratère si tu préfères, est en forme de cœur, un cœur de feu.
Il voulait foncer dans sa jeep russe jusqu'à la vallée de Djorsardalur. Et il voulait t'emmener avec lui.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais autant le père était passionné par les volcans au point où la naissance de la gamine, finalement, ça n'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, même 3 ans plus tard, c'est qu'il y a un volcan qui était en éruption. Autant elle, cette gamine en question, va devenir une femme en vie, une femme libre, une femme seule, et dont la seule passion va rester l'écriture. Alors, on connaît Madame Olavs de Tyr, c'est écrit avec une poésie extraordinairement belle, tout à fait à l'islandaise. Donc je vous recommande ce livre, Miss Island. Je vous retrouve dans quelques secondes. On va poursuivre le voyage. Ou avant de poursuivre le voyage, il y a cette phrase d'Antonio Machado qui dit « Caminante no hay camino, se hace camino al andar ». Ce qui veut dire « marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin, on le trace en marchant ». Et marchant, c'est ce qu'a fait beaucoup Sylvain Tesson et écrire aussi. Il a écrit énormément sur ses bouquins et notamment celui-ci, « Éloge de l'énergie vagabonde ». Et je vais lui laisser à lui, Sylvain Tesson, le soin de nous le présenter. Il dit, ou il écrit, si vous préférez, « J'irai de l'Aral à la Caspienne. Je gagnerai l'Azerbaïdjan à bord d'un ferry. De Bakou, je cheminerai vers la Turquie, par la Géorgie. À pied, à vélo, je ne sais pas encore, mais loyalement, sans propulsion, motorisée. Au bout de ma route, j'aurai relié 3 mers, abattant le même trajet que celui d'une larme d'or noir de la Haute-Asie, convoyée à travers steppes et monts, pour que le monde poursuive sa marche. » Point. Profitant de cette traversée de terre à haute valeur pétrolifère, je consacrerai mon temps d'avancée solitaire à réfléchir au mystère de l'énergie. D'où l'éloge de l'énergie vagabonde, non pas l'énergie du marcheur, mais celui qu'il va trouver par monts et par veaux, en n'utilisant que des vélos ou encore en étant à pied, mais jamais d'énergie style pétrole et compagnie. Pétrole et force vitale procèdent du même principe. L'être humain recèle un gisement d'énergie que des forages propices peuvent faire jaillir. Ce sont d'ailleurs des mots qu'on va retrouver dans l'extrait que je vous propose maintenant. Nous sommes au-dessus de l'Aral avec Sylvain Tesson, extrait 2, Éloge de l'énergie vagabonde.
L'avion survole le réseau de canaux de l'oasis du Choresme. Un jardin au milieu du désert. Il y a 6000 ans, on le cultivait déjà. Les Mongols ont voulu le détruire, les Russes ont réussi. Ils ont même asséché la mer d'Aral pour les besoins de l'agriculture et la gloire du plan quinquennal. Le pilote annonce la descente. J'imagine la mer d'Aral au nord, tapie comme une goutte que l'atmosphère tente d'aspirer. De toute sa force, elle s'accroche à la terre. Les ressources de l'Aral et de la Caspienne sont l'enjeu de haute lutte entre les nations. Après 1991, date de la chute finale, Dieu est l'âme de l'Union, des réserves immenses de pétrole et de gaz ont été découvertes dans la région. Les mers sont devenues des nappes blanches dressées pour le festin. Dans la première, on recherche le gaz, dans la seconde, le pétrole. Autour de la table caspienne, ils sont au moins 12 candidats au partage, 12 compagnies pétrolières approvisionnant des peuples jamais rassasiés. De nouveaux oléoducs ont gagné du terrain, rampant sur le dos des steppes pour convoyer l'or noir. Un soir, dans un bar, un plaisantin russe m'a dit qu'il fallait désormais appeler la région le Pipelineistan. Mais l'Asie centrale porte dans son nom sa propre tragédie. Son histoire balance entre la double difficulté de digérer les invasions et d'évacuer ses richesses. Les pipelines sont là pour organiser l'évasion de la houille. L'Europe a récemment réussi à en tirer quelques-uns jusqu'à elle. Ce sont eux que je vais suivre à bicyclette, à travers l'Oustiourt, vers la côte caspienne. Demain, je ferai le premier kilomètre vers l'ouest, dans cette direction solaire suivie jadis par les hordes uniques et vers laquelle s'engouffre aujourd'hui le gaz du torrent. Je gagnerai Bakou par un de ces ferries qui rallient le Kazakhstan à l'Azerbaïdjan. De Bakou, j'irai vers la Turquie, par la Géorgie. À pied ou à vélo, je ne le sais pas encore, mais by fair means, loyalement, sans propulsion motorisée. Au bout de ma route, j'aurai relié trois mers, parcourant le même trajet qu'une larme d'or noir de la Haute-Asie, convoyée à travers steppes et monts jusqu'au ventre des tankers de Méditerranée, pour que le monde poursuive sa marche folle. Ce voyage m'a été inspiré par ma passion des oléoducs. Les tubes m'obsèdent. Les pipelines me ravissent. Je peux contempler pendant des heures les striures dessinées par leurs réseaux sur les cartes de géographie. On croirait les intestins de quelques dieux de l'énergie qui se seraient fait harakiri devant les menaces de la pénurie d'hydrocarbures. Le long de tracés rectilignes, les pipes convoitent une pâte visqueuse. L'huile fluide coule dans le tube en dur, pareil au sang dans l'artère. L'entrelac de ces serpents charriant le boudin noir des sous-sols ressemble à des veines qui irrigueraient le plus vaste organisme vivant, l'humanité. Les oléoducs constituent des invitations au voyage. Ils dessinent des itinéraires excitants. Ils sont des lignes de fuite. Ils symbolisent les axes de tension entre les nations. Leurs fils raccordent les gisements souterrains aux mers lointaines. Leur tracé se fraye chemin à travers les faiblesses de la géographie. Par les cols, les vallées et les plaines, ils empruntent les routes historiques, là où sont passées les hordes en haillons, les caravanes de marchands, là où furent ouvertes les premières pistes, posées les premiers rails, là fut aussi le pétrole. Profitant de cette traversée de terre à haute valeur pétrolifère, je veux consacrer mon temps d'avancée solitaire à réfléchir au mystère de l'énergie. Celle que nous extrayons des strates de la géologie, mais aussi celle qui attend son heure au plus profond de nous, moteur insaisissable qui génère les actions, les paroles, les pensées. Ce volcan dont on ne sait de quel feu il se nourrit, ni quand il partira en cendres. Pétrole et force vitale procèdent du même principe. L'être humain possède un gisement de force que des forages propices peuvent faire jaillir.
J'aime beaucoup lire, aller voir parfois ce que les gens en pensent, les critiques, aussi bien ceux qui l'ont écouté que ceux qui l'ont lu, parce que vous vous doutez bien, je vous le dis souvent, que je ne peux pas ni lire ni ou et écouter tous les livres dont je parle à ce balado de façon hebdomadaire. Et là, il y a quelqu'un qui se fait appeler Le Vent, comme soleil levant, sur Babelio, qui écrit ces très jolis mots. Ouvrage lourd de réflexion, puisé à coups de pédale pour conclure du bout des lèvres que l'avenir de l'homme sur Terre, ce serait peut-être la décroissance qui commence. Ouvrage écrit à la sueur d'un corps qui s'échine par monts et par veaux, par tout temps. Une écriture toujours aussi riche de formules percutantes, de références érudites, d'à propos d'humanistes et d'humanisme, de croyances qui ne croient que ce qu'elles voient. C'est pour cela que Sylvain Tesson va au bout du monde à la vitesse de ses pieds, au mieux de son vélo, pour prendre le temps et le recul d'entrevoir l'avenir que se prépare l'Homo sapiens. Une philosophie de la sueur, du muscle sec, de l'esprit qui s'ouvre aux espaces infinis, ni optimiste, ni pessimiste, un constat lucide et si habilement formulé. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Sylvain Tesson, c'est ce type éminemment prétentieux, ça c'est pas moi qui le dis, c'est lui, très vaniteux, très prétentieux, très tout ce qu'on veut, qui à un moment donné, une soirée de beuverie, avec un ami, ils ont fait le pari qui était le pari d'escalader une maison, le mur d'une maison. Et je ne sais plus si c'était la sienne, je pense que c'était la maison de vacances d'un ami. Ça, peu importe, c'est anecdotique, mais toujours est-il qu'il s'est cassé la figure. Il a été défiguré, il a été gravement blessé au niveau de la colonne vertébrale. Et c'est le même homme qui garde les stigmates de cette chute-là sur le visage, qui parcourt l'univers et qui nous écrit tous ces jolis livres dont je vous parle à cette émission, parce que beaucoup se retrouvent en audio et on est bien content. Je ne sais pas si vous avez suivi, parce que vous savez que j'ai toujours un petit peu d'avance quand je prépare l'émission, mais c'est hier que la fusée est partie là en direct. Bon, je sais qu'il y a des gens qui se disent pourquoi dépenser autant d'argent. Il y en a d'autres qui disent que c'est important. Moi, honnêtement, ce qui me fascine, c'est ce que l'homme est capable de faire. Et j'ai appris beaucoup de choses en suivant l'émission, notamment que c'est, au départ, l'idée des fusées, ce sont ce qu'on appelait les V2, qui étaient les premières, les espèces de bombes là, qui pouvaient traverser un océan. Moi, je sais que chez nous, en Normandie, il y a encore des trous dans les forêts ou tout ça qui ont été faits par les V2. Eh bien, ce sont ces V2, et c'est la propulsion des V2 qui est exactement la même que pour les fusées. Et je ne sais pas pour vous, mais quand elle parle, j'étais écrasée dans mon fauteuil, comme si c'est moi qui étais à l'intérieur. Je me suis dit, vous voyez, complètement ridicule. Alors maintenant, bon, je ne suis pas là pour polémiquer sur la nécessité de faire ça. Il n'empêche que c'est quand même toujours assez extraordinaire de voir des images comme celle-ci et de savoir qu'il y a des personnes, des humains qui sont là-dedans. Voilà. Alors, ça m'amène vers 25 aventures dans l'espace. Et c'est pour les plus jeunes. Mais oui, j'aime bien avoir une petite pensée pour les plus jeunes à un moment donné. Ce sont, comme le titre l'indique, 25 aventures qui se passent dans l'espace. Histoire fantastique pour apprentis astronautes. Parce que je suis sûre que les images d'hier, s'il y a des mômes de 4, 5 ans, 10 ans, c'est certain. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je serai cosmonaute. On appelait ça comme ça à l'époque. On n'appelait pas ça un astronaute, on disait un cosmonaute. Voilà. Alors, on va écouter une de ces petites histoires-là. Ça a été écrit par un monsieur O'Neill, A-U-N-I-L. C'est bien sympathique de s'envoyer en l'air, si j'ose m'exprimer, par la littérature audio. Nous voici partis vers la lune bleue.
Zoé et Max étaient deux amis inséparables qui adoraient observer les étoiles allongées dans l'herbe de leur jardin. Un soir où la pluie avait laissé derrière elle un grand arc-en-ciel, un scintillement étrange attira leur regard vers la cabane au fond du jardin. Ils décidèrent d'aller enquêter et, aux surprises, découvrirent une fusée posée là. Mais ce n'était pas une fusée ordinaire. Elle était décorée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, brillant doucement comme les pierres précieuses de la couronne d'un roi. Sur la porte, un petit bouton clignotait en violet. Intrigués, Zoé pressa le bouton, la porte s'ouvrit en silence et ils montèrent à l'intérieur. Là, les attendait un tableau de bord extraordinaire avec des commandes colorées. Un écran s'alluma et une voix douce leur dit « Bienvenue, aventuriers de l'espace, où souhaitez-vous aller ?» Max appuya sur le bouton jaune. La fusée s'élança alors à une vitesse vertigineuse, traversant un tunnel lumineux. Ils atterrirent sur une planète couverte de sable doré où chaque grain brillait sous le soleil. De gentils bonshommes sablés, tout ronds et amicaux, les accueillirent avec des rires sucrés. Mais l'aventure ne faisait que commencer. Zoé appuya ensuite sur le bouton bleu ciel. En un clin d'œil, la fusée repartit vers une planète au ciel bleu profond où nageaient des baleines volantes parmi de gros nuages moelleux. Elles invitèrent les enfants à glisser sur leur dos, riant de joie. Max, curieux, appuya sur le bouton vert. Cette fois, ils découvrirent une forêt magique, où les arbres chantaient une douce mélodie et où poussaient des bonbons multicolores. Une licorne au crin vert les invita à jouer à cache-cache sous ses feuilles qui brillaient dans l'ombre. Au fil de leur voyage, chaque couleur les menait vers un monde étonnant, l'orange pour une planète de citrouilles bondissantes, le rouge pour un jardin de roses bavardes, le violet pour une rivière de confettis dans laquelle ils dansèrent. À la fin de la journée, fatigués mais le cœur empli de merveilles, Zoé et Max demandèrent à la fusée de rentrer à la maison. La fusée arc-en-ciel cligna ses lumières et les ramena doucement jusque dans leur jardin. Avant de partir, elle leur glissa « Revenez quand vous voulez, aventuriers !» Depuis ce jour, Zoé et Max, savent qu'à chaque arc-en-ciel, une nouvelle aventure les attend quelque part dans l'univers.
Et qu'on en apprend tous les jours. Alors, mon ami Mathieu Tessier m'a dit « Non, non, ce sont les Russes qui disaient les cosmonautes et les Américains n'ont jamais voulu utiliser l'expression, alors ils ont créé astronautes. » Bon, mais je ne sais pas si chaque pays a sa façon de dire parce que dans ces cas-là, on n'en finira pas. Alors, il y a peut-être des ticus qui vont effectivement dire « Moi, je veux être cosmonaute ou je veux être astronaute, en tout cas dépendamment du pays où il se trouve, peu importe, mais si ça inspire quelques vocations à des enfants, eh bien pourquoi pas. Et ces mêmes enfants, là, eh bien je ne saurais que trop leur recommander d'aller plonger les oreilles dans 25 aventures dans l'espace, histoire fantastique pour apprentis astronautes de Arthur O'Neill. Ça aurait pu être dans le chapitre des nouveautés parce que c'est pas vieux, ça s'est sorti en septembre 2025. Mais là, vraiment, on va parler de nouveautés. On va commencer par aller en Italie avec le titre qui s'appelle Volare. Vous savez, comme la chanson Volare. Ah, bon. C'est de Serena Giuliano et c'est lu par l'autrice Serena Giuliano. Ça vient de sortir. C'était le 18 mars dernier. C'est pas long. Hein. C'est vraiment une petite plaquette de 3h30. Bon, dans l'extrait que j'ai, c'est même pas que je l'ai choisi. C'est l'extrait qu'on m'a imposé pour vous. Elle n'est pas encore partie en Italie, cette jeune fille qui s'appelle Ambre, qui a tout pour être heureuse. Elle a un métier qu'elle aime, elle vit au milieu d'adolescents en pleine crise, mais ça n'a pas l'air de la déranger outre mesure. Elle a aussi une très très bonne amie, Manuela, qui est complètement excentrique, qui a un accent hispanophone assez prononcé. Elle a des sœurs jumelles qu'elle chérit comme si elle était leur mère. Et puis, elle a un drôle d'animal de compagnie à l'aile brisée. Alors, elle ne comprend pas, mais comment se fait-il que je me sente aussi déprimée parce que, effectivement, elle se sent déprimée. Elle a l'impression qu'elle manque d'énergie, que tout la retient au fond de son lit. Et que, voilà, c'est la grande lassitude, dépression, lui dit le médecin. Elle, dépressive, oh, que nenni. Alors, elle prend les choses en main. Et prendre les choses en main, c'est surtout son amie Manuela qui va faire ça, d'ailleurs, et qui va l'expédier en Sicile, parce qu'elle a une cousine là-bas qui organise des retraites spirituelles. Et la spiritualité, c'est pas trop le truc d'Ambre, mais par contre le soleil, la mer, la Vespa, les Vespa, le Stromboli, le petit verre de vin, les pâtes et les pizzas, ça par contre, ça pourrait être son truc. Alors elle se dit après tout, pourquoi pas, d'où le titre Volare, qui pourrait lui redonner envie de vivre. Mais là, on n'y est pas encore en Italie, mais on va comprendre dans quel état elle est avant d'arriver dans la botte. Quelle Italie ?
Chapitre 2. Ambre, tes volets sont encore fermés. Je commence à m'inquiéter. Tu es toujours malade? C'est Manu. Manu travaille dans l'agence de voyage en face de mon appartement depuis 3 ans. Et depuis 3 ans moins un jour, elle est devenue mon amie. Plusieurs fois par semaine, on se rejoint pour un verre en fin de journée, quand je rentre chez moi et que elle ferme sa boutique. Ces derniers temps, j'ai botté en touche en prétextant des rendez-vous puis une vilaine grippe très contagieuse. mais ça commence à être long pour une grippe, et je ne sais plus quoi inventer. J'aime beaucoup Manu. Elle est drôle, spontanée, avec un style de dingue dont j'envie parfois l'audace. Elle trouve que j'ai une garde-robe un peu trop classique pour mon âge, mais j'aime bien les vêtements simples et intemporels, qui sont une valeur sûre. Enfin, ça, c'était avant. Maintenant, je traîne en bas de pyjama difforme, avec aux pieds des chaussettes dépareillées. Et pour cacher mon t-shirt de dodo, un vieux pull en laine de mon père, oublié chez moi quand il était venu m'aider à m'installer. C'était il y a un milliard d'années, et c'est devenu mon pull de dépression préféré. 15 fois trop grand, avec des trous aux manches, absolument hideux. Il est parfait, ce pull. Une des seules choses qui m'apporte un peu de réconfort depuis que j'ai touché le fond de la piscine. Avant de pratiquer la dépression, je n'avais pas conscience de ce qu'elle pouvait commettre comme dégâts. Je ne savais pas à quel point elle pouvait tout abîmer, tout mettre sous une lourde bâche sombre, impossible à soulever. Je n'ai plus de force, je ne ressens plus d'envie, je n'ai plus aucune raison de me lever le matin, et j'ai le sentiment d'avoir tout perdu. À l'issue de mon deuxième rendez-vous chez le médecin, j'ai accepté un traitement antidépresseur. Stupidement, je pensais pouvoir m'en passer, que la bâche se soulèverait par un jour de grand vent, et qu'enfin, tout reprendrait son sens. Mais la météo ne m'aide pas, et j'en suis toujours au même point. Au point zéro, au point mort, au rond-point où l'on finit par tourner en boucle autour de rien, et aussi au point critique, en espérant que ce ne soit pas le point de non-retour. Les antidépresseurs sont une belle révélation. Je ne sais pas pourquoi on en fait tout un plat, pourquoi on en a honte, pourquoi on lutte pour ne pas en prendre. On se persuade qu'on peut faire sans, qu'on n'en a pas besoin. C'est vraiment étrange, quand on y pense. On ne dirait jamais qu'on peut se passer d'un plâtre si on se casse un bras, ou d'insuline si on est diabétique. Personne n'essaie de se sortir tout seul d'une arythmie cardiaque ou d'un ulcère à l'estomac. Mais quand il s'agit de dépression, pour tout ce qui touche aux troubles psy en général d'ailleurs, alors là, il y a gêne, culpabilité, incapacité à demander de l'aide.
Mais comme je vous le disais, il y a sa copine Manuela qui va dire « Hé, la botte italienne, ma chérie, va-t'en là, tu vas voir, ça va te faire du bien. » On va boucler la boucle, si vous le voulez bien, avec un titre japonais, un autre titre japonais, parce que ça vient de sortir. C'est sorti à la fin février 2026, et puis c'est d'un auteur que j'affectionne particulièrement. C'est vrai qu'il en est parfois question. Dans ce balado, des livres pleins les oreilles, il s'appelle Haruki Murakami, si vous ne le connaissez pas. C'est lu par Xavier Bord et c'est un titre qui n'appartient qu'à lui, Des hommes sans femmes. Cette fois-ci, c'est un recueil de nouvelles qu'il nous offre. Et alors, ce qui se passe, non, le mieux c'est que je vous lise peut-être un extrait, puis ça va me permettre d'être plus clair. Résumé, qui est en fait un extrait du livre. « À ce que je sais, votre épouse était vraiment une femme merveilleuse. Vous devez vous sentir reconnaissant d'avoir vécu presque 20 ans auprès d'une femme comme elle. Je le crois profondément. Néanmoins, vous aurez beau penser que vous avez compris quelqu'un, que vous l'avez aimé, il n'en reste pas moins impossible de voir au plus profond de son cœur. Vous aurez pu vous y efforcer, mais vous n'aurez réussi qu'à vous faire du mal. Vous ne pouvez voir qu'au fond de votre propre cœur. Et encore seulement si vous le voulez vraiment et si vous faites l'effort d'y parvenir. En fin de compte, notre seule prérogative est d'arriver à nous mettre d'accord avec nous-mêmes, honnêtement, intelligemment. Si nous voulons vraiment voir l'autre, nous n'avons d'autre moyen que de plonger en nous-mêmes, telle est ma conviction. Autrement dit, si vous voulez bien connaître quelqu'un, commencez par vous demander vous-même qui vous êtes. » Et là, il s'adresse à des veufs, d'où le titre du recueil des nouvelles « Des hommes sans femmes ». C'est vraiment, il semblerait que ce soit un clin d'œil à Hemingway. Et ce sont des hommes qui cherchent à remplacer leurs femmes. Et c'est un organisme qui leur permet de remplacer ces femmes en question, des femmes qui les ont abandonnées, soit parce qu'elles sont mortes, soit parce qu'ils ont divorcé, puis que donc elles ont décidé de fiche le camp, quoi. Alors, ce sont des nouvelles au creux duquel se nichent beaucoup de musique, beaucoup de solitude, beaucoup de rêves, beaucoup de mélancolie. On dit que le maître est au sommet de son art. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? Rien pour le moment. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un extrait d'un homme. Voilà, il est veuf depuis quelque temps, à moins que sa femme soit partie. Mais en tout cas, sa femme, avec une grande qualité, c'est que c'est elle qui conduisait. Je vous laisse écouter l'extrait de « Des hommes sans femme », une nouvelle de Haruki Murakami.
Le garagiste lui proposa une jeune femme. En voyant son expression, Oba sourit, de l'air de dire « Oh, je sais bien ce que vous pensez ». Je peux vous assurer cependant que cette jeune fille est une excellente conductrice. Croyez-moi, je m'en porte garant. Pourquoi ne pas la rencontrer et essayer un bout de conduite avec elle ? Bon, d'accord si vous le dites, répondit Kafuku. Il avait absolument besoin d'un chauffeur au plus vite. Et Oba était un homme de confiance. Ils se connaissaient depuis 15 ans déjà. Oba avait les cheveux épais, de vrais fils de fer, et il avait un peu l'allure d'un lutin. Mais son avis en ce qui concernait les voitures était toujours pertinent. « J'aimerais vérifier le parallélisme de votre véhicule, au cas où. Et s'il n'y a pas de problème, vous pourrez le récupérer après-demain à 14h. Je ferai venir la jeune personne en question à ce moment-là. Vous pourriez la faire conduire un peu dans les environs pour la tester. Si vous n'êtes pas content, vous me le direz franchement. Ne vous inquiétez pas pour moi. » « Quel âge a-t-elle ? » ?»« Dans les 25 ans, je pense. Je ne lui ai pas demandé, en fait. » dit Oba. Son visage se plissa. « Simplement, si sa manière de conduire est tout à fait excellente, comme je vous l'ai déjà indiqué, il y a une chose. »« Oui ? » ?»« Eh bien voilà, il y a tout de même un petit problème avec elle. » »« À savoir ? » ?»« Elle est abrupte, ne parle presque pas et fume sans arrêt, » dit Oba. « Vous comprendrez dès que vous la verrez. Ce n'est pas le genre de fille très charmante. Elle ne sourit presque jamais. Et puis, pour être honnête, elle est sans doute un peu rugueuse. »«
Cela ne me dérange pas. Je serais mal à l'aise avec une femme trop belle, sans compter les ragots qui s'en suivraient. »«
Eh bien, dans ce cas, elle devrait vous convenir parfaitement. »«
Mais pour ce qui est de la conduite, vous me la recommandez ?»«
Sans hésitation. Elle n'est pas juste bonne conductrice pour une femme. » Elle est bonne conductrice tout court.
Que fait-elle actuellement ?
Je ne sais pas très bien. Des petits boulots. Elle travaille à la caisse d'une supérette ou bien elle effectue des livraisons, ce genre de job de courte durée. Et qu'elle peut quitter immédiatement si elle trouve mieux. Nous l'avons connue par un ami, mais nous n'avons pas assez de travail pour engager quelqu'un à temps plein. Ici ou là, en cas de besoin, nous faisons appel à elle. Je crois vraiment que c'est une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus sérieux. En tout cas, elle ne touche pas à l'alcool.
À cette mention, Kafuku se rembrunit. Instinctivement, il porta la main droite à sa bouche. « Je la verrai après-demain à 14h », dit-il. Cette fille abrupte, taciturne, pas très charmante, avait éveillé son intérêt.
Alors voilà, ça c'est une femme qui va être engagée par ce type-là pour le conduire, mais il y en a d'autres qui vont être là juste pour les écouter, ces gars tout seuls, qui ne sont pas des violents, qui ne sont pas des fous, qui sont pas des, ce sont des gens comme vous et moi, voilà, qui se ramassent seuls dans la vie. Et puis c'est une femme qui va venir combler ça et qui va répondre à certains de leurs besoins. Oui, il y en a une ou deux d'ailleurs. Il y en a un, on peut deviner qu'il était avec Sherazade. Et puis, pouf, elle est partie. Alors, elle va être là pour combler une autre partie de ses désirs, comme on peut l'imaginer. Les critiques sont excellentes pour ce recueil de nouvelles des hommes sans femmes d'Haruki Murakami, sorti en audio le 26 février dernier, que vous pouvez trouver sur à peu près toutes les plateformes. J'ai un petit peu de temps pour vous le rappeler. Alors, ça, c'est chouette. Si vous êtes au Québec, n'oubliez pas que nous avons Nara Audio, Nara.audio, qui vous permet de trouver des livres d'ici, lus par des narrateurs d'ici, et des livres francophones également, qui sont disponibles sur cette plateforme québécoise. Sinon, vous pouvez aller sur carrément les maisons de production, par exemple Audiolib, pas Audible, Audiolib, vous pouvez aussi aller sur Audible, évidemment, ou encore sur Gallimard, la collection Écoutez lire. Il y a aussi Lizzie, L-I-Z-Z-I-E. Et puis, n'oubliez pas que sur Spotify aussi, si vous êtes abonné à Premium, vous pouvez écouter des livres audio, ainsi que sur YouTube. Alors, il y a vraiment tellement de façons d'écouter des livres audio, mais il n'y en a qu'une, il n'y a qu'un seul balado qui traite du livre audio, ça, c'est le mien, c'est Des livres plein les oreilles, que j'anime et que je réalise pour vous toutes les semaines, appuyé par mon ami Mathieu Tessier de l'autre côté de la vitrine. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve pour un autre épisode la semaine prochaine. Salut! C'est Clotilde Seille en passant. Bon, pas grave, on s'en fout. On s'en fout pas. Ha ha ha.